Vous venez probablement d'entendre, comme moi, le bulletin d'information où on dit que pour la seule journée d'hier en France, 21 000 cas déclarés de COVID. C'était 18 000 la veille. Chez nous, on a une petite hausse d'infection, aucun décès encore. Et ça me semble être le portrait qui se dessine un peu partout. Si bien, Luc Lavoie, bonjour.
Salut Jean-Luc.
Qu'on puisse se retrouver, il y a presque une unanimité qui se fait autour de cela, une quatrième vague possible.
Ouais, puis on y tient pas tant que ça. Bon, tu viens de le dire, au Québec, pas de décès aujourd'hui, pas de décès hier. Ça, c'est le bon travail des vaccins, n'est-ce pas? Mais les Canadiens doivent s'attendre à ce qu'une quatrième vague de COVID, attribuable cette fois-ci au variant Delta, déferle sur le pays, selon André Veillette, qui est le membre du groupe de travail fédéral sur les vaccins contre la COVID. Alors, quand on regarde, Jean-Luc, des pays où les citoyens se sont fait quasiment aussi bien vacciné que nous. Par exemple, l'Angleterre, la France, bien que la France est plus dure comme comparaison. L'Israël, il y a maintenant une recrudescence du nombre d'infections due probablement au fait que ce variant va beaucoup plus vite. La contagion est beaucoup plus, agressive. Et André Veillette ajoute, c'est clair qu'il va y avoir une vague additionnelle dans plusieurs pays et ça va probablement nous atteindre aussi au Canada et au Québec. Au Royaume-Uni, où 68% de la population adulte est essentiellement entièrement vaccinée, on recense plus de 45 000 nouvelles infections par jour, dont 99% sont attribuables au fameux variant Delta. En Israël, où presque tout le monde est doublement vacciné, on a atteint à nouveau 1400 infections en France.
Quand même, hein?
C'est quelque chose. Aux États-Unis, 49% de la population totale a reçu deux doses de vaccin, mais le nombre de cas a tout de même progressé de près de 200% depuis deux semaines et atteint maintenant 38 000 sur une base quotidienne. Et écoute bien ces chiffres-là, pour des régions des États-Unis qu'on connaît.
Oui, oui.
La hausse est de plus de 738% en Alabama, de 419% en Floride et de 225% au Mississippi.
Dit comme ça, ça fait peur. Tu sais?
Ah ben je comprends que ça fait peur, Jean-Luc. En fait, je suis tellement malheureux d'avoir à rapporter ces chiffres-là aujourd'hui.
Mais il y a une chose qui doit te rendre très heureux, c'est qu'il y a eu un sondage qui a été fait par le gouvernement du Québec où les gens disent « Nous sommes favorables à une vaccination de l'ensemble des employés de la santé. »
Eh oui, et ça, tu comprends, tu as raison, je suis extrêmement heureux. Et puis, parlant de ce sondage, c'est très intéressant ce qu'on y voit, hein. Des trois Québécois sur quatre qui se disaient très ou assez d'accord avec l'idée du gouvernement de délivrer un passeport vaccinal. C'est beaucoup, ça, hein?
Oui.
Les gens pensaient que cette histoire de passeport vaccinal, ça deviendrait une sorte d'irritant dans toute la population. C'est pas vrai. Faut pas prendre ses rêves pour des réalités ou ses cauchemars non plus.
C'est ça. Les gens qui résistent à ça pensaient que c'était une intrusion dans leur vie privée, des informations, etc., etc., etc. Mais, tu sais, montrez vos papiers, donnez-moi vos papiers en fonction de la santé. C'est pas donnez-moi votre dossier judiciaire ou votre carte pour savoir si vous avez des points de démérite. Tu sais, c'est pas, on n'est pas là, là.
On n'est pas là partout. Là. Ce que c'est qu'on a, c'est un QR code, là, un code QR. Là. C'est ça qu'on a. Puis ils disent, ah, il doit y avoir des informations là-dedans. Tu sais, on peut aller dans le complotisme, puis dire, il y a peut-être une puce électronique de cachée dans le vaccin. Mais bon, on va mettre ça sur le dos des conneries. 70 et 80% des gens ont continué d'appuyer le gouvernement à travers tout ça. Mais là où, comme on dit, le bas blesse, les Québécois font plus confiance à leurs politiciens provinciaux qu'à ceux d'Ottawa. Jusque-là, ça va pour gérer la crise, à une exception près. Écoute bien ça. Ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.
Ça marche pas, lui, là, non.
Il a la confiance d'à peine un Québécois sur deux, selon les derniers chiffres de Somme, la firme de sondage Somme.
Et si ce ministère n'est pas un ministère stratégique et important au centre même de ce que nous vivons comme séquelles, parce que on peut perdre des gens dans le domaine scolaire, on peut perdre pas d'une génération, mais des gens qui vont avoir des difficultés d'apprentissage, etc., etc. C'est vital, l'éducation dans notre société.
Ben, vas-y, Jean-Luc.
Et il est pas capable de rassembler ou de donner une adhésion à ce qu'il fait.
Je trouve que c'est un drôle de phénomène, ce gars-là, Jean-Luc, là, parce que bon, je le connais pas personnellement, je pense l'avoir rencontré une fois pour lui serrer la main, mais c'est un gars qui annonçait des choses formidables dans le nouveau gouvernement. Il paraît bien, s'exprime bien, semble avoir une certaine ou une réelle empathie.
L'expérience de l'enseignement.
Ouais, l'expérience de l'enseignement. Un gars avec des convictions fortes concernant l'importance de l'éducation au Québec. Et le reste. Mais le gars, il s'est empêtré. Probablement, aujourd'hui, on pourrait dire, ah oui, ce sont ces fonctionnaires, mais dans la vie, là, les politiciens élus, leur job, là, c'est de trancher ce que les fonctionnaires leur amènent. OK? Alors, lui, là, il s'est fait empêtrer dans une espèce de corridor de fou concernant l'aération dans les écoles.
Ouais.
Il a commencé par dire que c'était parfait. Après ça, c'était moins parfait. Après ça, c'était semi-parfait. Puis là, finalement, je pense qu'on va étudier ça davantage.
Ton expérience politique, à toi, là, dans, oui. Bon, parce que tu as été au conseil privé, puis bon, peut-être. Bon. Est-ce que ce gars-là est dans le corridor de la fin?
Je pense que ce fin gars-là.
Fin
Ouais. Moi, je penserais plutôt que ce gars-là est dans le corridor pour descendre, c'est-à-dire qu'il va se retrouver ministre avec quelque chose de beaucoup moins stratégique et important que l'éducation. D'autant plus qu'au lendemain de la pandémie, c'est un peu comme dans le ministère de la Santé, il va falloir qu'il fasse un certain ménage. Ça fait 15, 16, 17 mois là, qu'on vit dans la pandémie, fait qu'on a testé nos systèmes de santé, d'éducation, système de sécurité, on voit qu'est-ce qu'on est capable de livrer comme marchandise en situation de crise.
Ouais.
Lui, il n'a pas livré. OK, contrairement à Christian Dubé, et je ne cesse de chanter ses louanges, il y a 78% des gens qui disent qu'ils ont confiance en lui, même le docteur Arruda à 78%, puis François Legault à 79%. Donc dans un remaniement ministériel hypothétique qui va venir éventuellement, avant une élection, il y a au moins un gros remaniement ministériel. J'ai l'impression qu'on va voir Jean-François Roberge descendre un peu, puis on va trouver l'éducation entre les mains de quelqu'un d'un peu plus solide. Maintenant, j'ai toujours cru que la CAQ avait une faiblesse comme gouvernement, c'est que il y a 5-6 bons ministres, tu sais, bons ministres qui se mesurent à n'importe qui a été ministre avant, et même mieux. Dans le cas de Dubé, je trouve que c'est exceptionnel. Mais le reste, le dugout, comme on dit au baseball, là, il y en a pas beaucoup, là. Il y a du monde, puis il y en a peut-être qu'on n'a pas suffisamment testé. Mais grosso modo, quand t'as fait le tour des 4-5 principaux, là, Éric Girard, qui est d'après moi un excellent ministre des Finances, vous avez Dubé à la Santé qui fait un job, mais la nation lui doit cher, quasiment.
Fitzgibbon, qui était bon, puis qui est toujours
Fitzgibbon,
là.
Fitzgibbon, non, moi j'ai
dit non. Pour moi, lui-là, il est juste en arrière du rideau, là, il attend, il va revenir.
Moi, je pense que non, Jean-Luc. Et moi, j'ai pas la même opinion que toi sur Fitzgibbon. Fitzgibbon, j'ai déjà vu ça en politique à Ottawa. Il y a un homme d'affaires qui descend de son Olympe, là, puis qui dit, moi, je sais ça. Je sais comment amener des grosses organisations. Alors, je vais prendre le contrôle de ça, puis je vais faire ça, là, puis je vais faire ci et ça. Mais là, quand ils arrivent en politique, ces gens-là, ils se rendent compte que la politique, c'est pas mal plus complexe que ça, là. T'es pas redevable et imputable à tes actionnaires, pas ton conseil d'administration.
Non.
T'es imputable à tous les Québécois.
À la population générale.
Alors lui, ce gars-là, il a pris une attitude depuis qu'il était là. Et moi, je connaissais les affaires. Vous allez voir, les investissements, ça va bien marcher. Mais par ailleurs, votre code d'éthique, ben là, on peut pas appliquer ça à un gars comme moi. Pas une fois, deux fois qu'il est blâmé. Alors là, il a fini par démissionner. Moi, je ne crois pas qu'il va revenir au cabinet. Je crois plutôt qu'il va retourner aux affaires, ça va finir. Là.
Je veux juste revenir à Robert. Tu dis, ben, on donnait son profil, puis on disait, bon, oui, c'est un enseignant. Est-ce que tu as remarqué que c'est pas parce que tu as fait un métier que tu peux en être le ministre? Je regarde ça, on a été mis par des avocats, Jean-Luc, des économistes, des médecins, et là, c'est des comptables qui gèrent la place.
En tout cas, peu importe, je veux dire, tu as complètement raison.
C'est pas une garantie.
Non, c'est pas
Maurice
une garantie.
Maurice Richard, excellent joueur, il a coaché une game de hockey, tu sais.
Ouais, c'est ça, effectivement, oui. Mais, comment dire, je pensais à Wayne Gretzky, qui a pas été un grand coach lui aussi.
Ouais.
Mais le cas le plus évident de ce que tu dis, c'est Christian Dubé. C'est un gestionnaire qui vient de la filière des papiers cascades de la famille Lemaire.
Exact.
Qui sont connus pour avoir un système de gestion très, très serré. Parce que ce sont des business où tu peux facilement te mettre à perdre de l'argent.
Oui,
donc, papier, lui, il vient de ça. C'est un gestionnaire qui a aucune prétention à connaître la science ou la médecine, mais qui est comme bon gestionnaire, il sait si un tel fait une bonne job, celui-là. Un gars comme Dubé, ça vaut de l'or. Moi, je l'ai déjà dit à cette antenne. Je pense que, bon, je suis un peu autour de la politique depuis une quarantaine d'années. Là. Ouais. C'est un des meilleurs ministres que j'ai vu à l'œuvre. Et je veux dire, crédibilité, compétence, empathie.
Humilité dans la présentation.
Humilité dans la présentation. Ce gars-là, là, le Québec va lui devoir très cher. Hein. J'espère qu'au lendemain de la pandémie, on va se rappeler de lui. Et puis, juste au plan politique, puisqu'on y est, tu te dis, bon, un jour à la CAQ, ils vont commencer à penser que François Legault va prendre sa retraite. Je veux dire, François Legault, c'est sûr qu'il va se présenter à la prochaine.
Ben oui.
Mais donne un autre 3 ans, puis il va peut-être considérer que 2 mandats, c'est suffisant. Et là, qui voyait-on pour lui succéder? Le ministre Jolin Barrette, que moi j'appelais le ministre Pinault Caron. Fait qu'il y en a encore là-dedans qui pensent que Jolin Barrette va succéder à Legault. Regarde Valérie Dubé. À bien des égards, c'est l'anti-politicien. C'est le gars qui est pas du tout packagé, si tu me permets l'expression. Il est tel qu'il est. Et ça, comprends-tu, ça a quelque chose d'extrêmement attirant quand on sort d'une période aussi bouleversante que celle qu'on est en train de vivre.
Je veux revenir à la pandémie, parce que c'est ça qui vient de conditionner la décision américaine de ne pas ouvrir ses frontières au Québec et au Canada. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre la situation au Mexique, qui est probablement plus déplorable en termes de pandémie que ce que nous avons ici au Canada et au Québec particulièrement, qui fait en sorte qu'ils disent « on n'ouvrira pas le Canada et on va attendre que le Mexique aussi améliore sa situation puis que nous autres, on paye pour une situation qui nous concerne peu ou pas. »
Disons que j'hésite à te répondre parce que je suis pas sûr de comprendre la base de l'argument. Je veux dire, parce qu'on a une espèce d'affaire, un allélan renouvelé.
Ben oui.
Ben, je pense pas que ça a quoi que ce soit à voir. Quoi que ce soit à voir.
Moi, la politique puis la pandémie, je trouve ça proche.
Ah ben, c'est très proche.
Ça commence par le P, tous les deux.
Et ça vient aussi rappeler à tout le monde, là, qui disent « Ah, qu'on est content d'avoir Joe Biden, ça a l'air d'un bon gars. » Je viens vous rappeler une chose, bien que je suis d'accord avec la majorité des gens pour dire que Trump est un des pires présidents que j'ai jamais vu, je voudrais rappeler aux gens que l'histoire a maintes fois démontré, n'est-ce pas, que les démocrates sont pas les meilleurs amis du Canada parce qu'ils sont protectionnistes, parce que tout ce qui vient avec, et nous sommes une nation marchande. Alors moi, je regarde aller Joe Biden en ce qui regarde la politique avec le Canada. Je suis pas très à l'aise avec ça, mais tu comprends? Bon, oui, il est bien fin, puis tout ça. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement dans les dossiers clés, là, comme l'aluminium, comme ben, c'est réglé en bonne partie, mais les questions du bois, toutes ces affaires-là, les questions d'approvisionnement, les questions de Buy America, tout ça. Ça vient nous rappeler cette décision de dire, nous autres, on n'ouvrira pas avant... C'est comme s'il voulait nous... punir. Ça ressemble à ça.
En tout cas, il peut y avoir un sentiment d'injustice de notre point de vue à nous autres, de dire, écoutez, on vous reçoit, on vous accueille, vous allez venir dépenser vos dollars, vivre notre économie. Puis de l'autre côté, il pénalise même ces gens. Donc, il doit avoir une question épidémiologique de santé plus rationnelle que le simple fait du protectionnisme.
Ben, si une telle chose existe, je ne la connais pas, Jean-Luc.
OK.
Puis, j'aime bien l'expression que tu as employée. Pandémie puis politique, c'est pas mal plus proche qu'on pense.
Je pense que oui.
Merci. Beaucoup, beaucoup plus proche. Merci, Jean-Luc.
Merci, au revoir. Bonne fin de journée. C'était notre ami Luc. On va s'arrêter pour une courte pause et on poursuit tout de suite après parce que il y a quelque chose d'intéressant. Je vais lui reparler. On lui a parlé au début de la semaine à cet invité-là, qui est le président de la chef de direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Mais là, ils ont fait un genre de pétition ou d'entente où il y a des signataires au centre-ville de Montréal. Une déclaration pour un retour au centre-ville. Oui, mais comment? Et comment on va agir et comment on va faire? Et est-ce que c'est possible de faire atterrir cette volonté-là alors qu'on sent très bien qu'il y a vraiment un engouement pour le télétravail et probablement que les employeurs n'ont pas encore toute la souplesse de gestion dans leurs ressources humaines pour faire affaire avec un système hybride? On revient tout de suite.